Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et tout d'abord, les grands titres de ce 23 janvier. 34 morts en Nouvelle-Galles du Sud, 14 morts dans le Victoria, 10 morts au Queensland dû au coronavirus depuis hier. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les capitales européennes pour protester contre les passeports sanitaires. Le patron de Tennis Australia, Craig Tiley, a confirmé que Novak Djokovic ne poursuivait pas l'organisation en justice et qu'il reviendrait probablement en Australie en 2023. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 20 324 cas de COVID-19 et 34 décès au cours des dernières 24 heures. Le nombre de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux de l'État est cependant en légère baisse. Parmi eux, 189 sont en réanimation, soit 15 de moins que les 24 heures précédentes. L'État fera face à de nouvelles vagues d'augmentation du nombre de cas de coronavirus lors de la rentrée scolaire, après les vacances de Australia Day, selon les autorités. Le Victoria a enregistré 14 décès dus au COVID-19 et 13 091 nouveaux cas du virus. Le gouvernement du Victoria est sur le point d'annoncer son plan de protection des élèves et du personnel lors de leur retour dans les salles de classe le 31 janvier prochain. On s'attend à ce que des tests rapides pour les élèves fassent partie de la stratégie. 10 décès liés au COVID-19 ont été signalés dans le Queensland, ainsi que 11 947 nouvelles infections. Il y a 863 patients dans les hôpitaux de l'État, 47 en soins intensifs. La Tasmanie a enregistré 625 nouveaux cas de coronavirus, 39 personnes sont hospitalisées avec le virus. En Australie méridionale, une baisse puisque le nombre de patients en soins intensifs est passé de 37 à 24 personnes. Il n'y a plus de décès et l'État a enregistré 2062 nouveaux cas, ce qui est le chiffre le plus bas de l'année. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les capitales européennes pour protester contre les passeports sanitaires, les vaccinations obligatoires et d'autres règles imposées par le gouvernement dans l'espoir de mettre fin à la pandémie de coronavirus. Des manifestations ont eu lieu à Athènes, Helsinki, Londres, Paris, Berlin et Stockholm. Des marches à Paris ont attiré des centaines de manifestants pour protester contre l'introduction à partir de demain lundi d'un nouveau pass vaccinal. Écoutez ces manifestants dans le cortège parisien capté par France Inter.
Est-ce que les résistants sont toujours aussi survoltés que leur réputation ?
Ce qui fait du bien, c'est de voir des gens sans masque, c'est de voir des gens sourire, c'est de voir des gens qui vivent.
On sait maintenant que le virus, surtout le Omicron, n'est pas si dangereux que ça. Il est contagieux, certes. Moi, comme ça, tout le monde va être immunisé.
Je ne suis pas vaccinée et je mets très très rarement le masque. Quand on voit ce qui se passe un peu dans le monde entier, je pense que bientôt, nous allons connaître la liberté.
L'avenir est à nous !
Et puis des manifestants sont descendus dans les rues du centre de Londres hier, samedi, pour manifester contre la vaccination obligatoire contre le coronavirus pour les travailleurs du British National Health Service. Tout le personnel de santé qui travaille avec le public devra être vacciné contre le virus à partir d'avril prochain, malgré les craintes que cette décision ne pousse des milliers de personnes à quitter leur emploi. Une manifestante, Hillary, a estimé qu'elle devait se joindre au rassemblement pour protéger les droits des autres.
You've got NHS workers saying, actually, I don't want to be sacked for making a fundamental human choice, which is, you know, it's an inalienable right. This is not a whether you're jabbed or not. It's a fundamental human right to allow someone to accept or decline a medical procedure without threat of reprisal.
Le secrétaire britannique à la santé, Sajid Javid, a déclaré que 90% du personnel du NHS, financé par l'État, avait déjà reçu 2 doses d'un vaccin, mais cela laisse plus de 100 000 soignants non vaccinés. Et cette nouvelle maintenant que des milliers quittent le National Health Service, reportage de Emeline Vin pour RFI.
Ils sont 27 000 à avoir quitté l'hôpital public anglais entre juin et septembre 2021. Un record depuis le début des recensements en 2011, cela représente 2% du personnel. La majorité de ceux qui donnent une raison à leur départ évoquent la recherche d'un meilleur équilibre de vie ou encore le manque d'opportunités au sein du National Health Service en comparaison avec d'autres employeurs. Les syndicats de soignants le disent, après 2 ans de pandémie, de plus en plus de professionnels de santé n'en peuvent plus. Les diagnostics de stress post-traumatique se multiplient, le salaire ne justifie pas la pression subie et les gardes s'enchaînent pour compenser le déficit chronique de soignants aggravé par les arrêts maladie pour cause Covid. Déficit qui risque donc d'empirer, précisément en raison de ces démissions. Le NHS indique que 93 000 postes sont actuellement à pourvoir, toutes spécialités confondues. Avec pour principale conséquence une moindre accessibilité aux soins, en novembre, 6 millions de Britanniques étaient sur liste d'attente pour recevoir un traitement.
Près de 30 fabricants de médicaments génériques vont produire le molnupiravir, la pilule anti-Covid du groupe pharmaceutique américain Merck. Ce sera à un prix abordable pour les pays, les 105 les plus pauvres de la planète. Ariane Gaffery, RFI.
L'accord signé avec 27 fabricants de médicaments fait suite au contrat de licence volontaire signé avec Merck en octobre 2021. Il vise à faciliter l'accès mondial du molnupiravir à un prix abordable. Ces 27 entreprises fabriqueront les ingrédients ou le médicament lui-même. Elles sont basées dans 11 pays différents, au Bangladesh, en Chine, en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Vietnam, entre autres. La pilule anti-Covid de Merck doit réduire le risque d'hospitalisation et de décès de 30% parmi la population fragile. En novembre, le géant Pfizer avait annoncé un accord similaire permettant à 95 pays à faible et moyen revenu, soit la moitié de la population mondiale, d'accéder à son traitement oral anti-Covid, commercialisé sous le nom de Paxlovid. Il diminuerait, lui, les risques de symptômes graves de 90%. Ces pilules anti-Covid sont plus faciles à fabriquer que les vaccins et n'ont pas besoin d'être réfrigérées, ce qui lève un obstacle majeur pour les nations pauvres.
Les ministres de la Défense russes et britanniques vont se rencontrer. C'est une première depuis 2013, depuis la dégradation des relations après l'affaire Skripal et de sa fille, victime de tentatives d'empoisonnement au Novichok. Anastasia Becchio, RFI.
La dernière rencontre bilatérale à ce niveau remonte à 2013. Les relations entre Moscou et Londres sont fortement dégradées depuis l'assassinat au polonium de l'ancien agent russe Alexandre Litvinenko en 2006 et la tentative d'empoisonnement au Novichok de Sergueï Skripal et de sa fille 12 ans plus tard. Mais face à la crainte d'une invasion russe en Ukraine, il était urgent de reprendre langue. Dans sa réponse écrite à l'invitation de son homologue britannique, Sergueï Shoigu souligne qu'une reprise des contacts dans un esprit de bonne volonté entre la Russie et le Royaume-Uni contribuera à réduire les tensions en Europe. Récemment, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que toute offensive que la Russie mènerait contre l'Ukraine serait désastreuse, non seulement pour la Russie, mais aussi pour le monde entier. Le Royaume-Uni va fournir des systèmes d'armes défensives légères et anti-chars à l'Ukraine, des armes non stratégiques et ne représentant aucune menace pour la Russie, selon le secrétaire britannique à la Défense. Devant la Chambre des communes, Ben Wallace a déclaré qu'un petit nombre de personnels des forces britanniques se rendraient en Ukraine pour y dispenser une formation aux militaires ukrainiens. Pas question en revanche de bercer l'Ukraine de faux espoirs. Londres, a-t-il prévenu, n'enverra pas de troupes en Ukraine.
Et la communauté internationale se pose la question sur la nécessité de livrer des armes à Kiev. Les USA le font déjà. Les pays baltes, la Grande-Bretagne et la République tchèque veulent franchir ce pas. De son côté, l'Allemagne refuse et interdit à l'Estonie d'envoyer des armes allemandes à l'Ukraine. Les précisions de Pascal Thibault pour RFI.
Hier, à nouveau, le chancelier Scholz a répété que son pays ne livrerait pas d'armes à l'Ukraine, alors que Kiev réclame depuis des années un soutien militaire de Berlin. Pour l'Allemagne, la diplomatie reste la solution la plus efficace dans la crise actuelle. Des livraisons d'armes ne feraient pour la nouvelle coalition qu'envenimer les tensions. Berlin veut par ailleurs durcir ses règles sur les exportations d'armes non autorisées pour les zones où des conflits ont lieu. Cela vaut aussi pour des livraisons via des pays tiers. Berlin refuse à l'Estonie l'envoi d'artillerie allemande à Kiev. La nouvelle ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock évoque l'histoire et l'invasion de l'Union soviétique par le Troisième Reich pour justifier son refus. Il est difficile d'accepter pour les Allemands de livrer des armes qui servirait à tuer des soldats russes. L'ambassadeur ukrainien en Allemagne évoque aussi l'histoire pour justifier ses demandes d'armement en référence aux 8 millions de personnes victimes de l'occupation nazie dans son pays. Face à ce dilemme, Berlin souligne son soutien politique à l'Ukraine et annonce, faute d'armement, la livraison le mois prochain d'un hôpital de campagne après celle de respirateurs pour les blessés graves.
En France, avec les présidentielles de 2022, avec d'abord ce reportage sur la campagne de la socialiste Anne Hidalgo. Elle était à Aubervilliers hier. Reportage Anthony Latier, RFI.
Pas un jour sans qu'on ne lui demande si elle va se retirer. Alors devant ses partisans, Anne Hidalgo veut clore ce débat une bonne fois pour toutes.
Et on voudrait que je me résigne, que nous nous résignions devant la difficulté. Mais dans vos rêves! Alors, la page est tournée, je défendrai notre projet et les Françaises et les Français trancheront!
Impossible, explique-t-elle à la tribune, que les héritiers de la grande œuvre des gouvernements socialistes ne soient pas représentés à la présidentielle et la maire de Paris blâme une nouvelle fois les écologistes pour l'absence de l'union de la gauche. Dans un mélange de conviction et d'autoconviction, ses soutiens approuvent son choix.
Elle porte les idées du PS, moi je crois à sa candidature et j'espère qu'elle ira jusqu'au bout, sinon il n'y aura personne. Hein.
C'est bien parti, elle sort un peu de sa torpeur, on s'affirme et on y va, coûte jusqu'à la fin.
I won't give up, je n'abandonnerai pas, entend-on même dans les haut-parleurs. Elle est inoxydable, assure ses proches. Pas sûr cependant qu'un meeting dans une salle à un tiers vide mette fin aux interrogations et aux doutes.
Gilbert Collard, le député européen anciennement associé à Marine Le Pen du Rassemblement National, a ouvert le meeting d'Éric Zemmour à Cannes hier. Écoutez-le.
Pour reconstruire la France, il faut des mains de travailleurs, il faut des mains de maçons, il faut des mains qui n'aient pas peur d'aller dans le plâtre, qui n'aient pas peur de se salir, qui n'aient pas peur de travailler. Et ces mains, par la grâce de je ne sais quelle providence, nous les avons. Alors vous qui êtes à l'extérieur, un homme vous tend les mains, attrapez-les, parce que vous êtes la France qui tombe dans le puits, qui s'étouffe, qui va mal et qui a besoin de ses mains pour sortir de la nuit du désespoir. Oui, Éric, on est avec toi. La France est avec toi. Merci.
Le procureur de la République a estimé que les violences qui ont secoué la Guadeloupe depuis près de 3 mois concernant l'obligation vaccinale ont été, je cite, planifiées et organisées. Précision de Jeanne Richard pour RFI.
Dès le mois de novembre dernier et les premières émeutes de protestation, les forces de l'ordre mettent en place une surveillance. Les enquêteurs se rendent rapidement compte d'un partage des rôles entre bandes de jeunes lors des attaques. Et après une nuit de violence particulièrement intense fin novembre, les investigations s'intensifient dans le plus grand secret, car l'implication d'un fonctionnaire de police apparaît selon le parquet. On est sur de la trahison, accuse le procureur, qui affirme même que l'homme serait à l'origine de nombreuses opérations. Il est désormais placé sous mandat de dépôt. En tout, 8 personnes sont mises en examen, dont 4 placées en détention provisoire. Pour le procureur, si la bataille idéologique contre l'obligation vaccinale ainsi que les difficultés de la jeunesse demeurent en toile de fond, l'objectif des personnes impliquées dans ces violences était de s'enrichir en recevant de grosses sommes d'argent de la part de grands magasins en échange de la promesse de ne pas être pris pour cible par les émeutiers, en faisant pression sur des élus locaux ou en obtenant des fonds réservés aux associations qui se créaient pour participer aux négociations de sortie de crise.
La page culture de ce journal, la sortie du dernier film de Claude Lelouch, L'amour c'est mieux que la vie. Elisabeth Le Quéré, RFI.
Et vous voulez quoi au juste ?
Notre ami, il va bientôt nous quitter.
C'est l'histoire d'un homme condamné par la médecine, un homme qui n'a plus que quelques mois, voire quelques semaines à vivre. Alors ses deux meilleurs amis se cotisent pour lui offrir une dernière histoire avec une prostituée. Et bien sûr, que croyez-vous qu'il arriva ? Le septuagénaire Gérard Darmon et la call girl Sandrine Monner vont tomber amoureux. C'est donc parti pour 2 heures de chasse et croisée dans Paris.
Vous êtes venu seul sur ce bateau ?
Oui, pourquoi ?
À 84 ans, le cinéaste va à l'essentiel. Il jongle entre la fiction et la vie et se raconte, sans trop de pudeur, via cette histoire d'amitié entre potes et d'amour. C'est grossièrement ficelé et bien sûr sentimental, comme du Lelouch. On voit surtout que le cinéaste prend un grand plaisir à diriger ses comédiens préférés, Gérard Darmon, Harry Habitant, Béatrice Dalle, Clémentine Célarié, sans oublier une nouvelle venue, Sandrine Bonner, impeccable dans le rôle de la call girl au grand cœur. Les fans ne seront pas déçus.
Et vous pensez que l'amour c'est mieux que la vie ?
Maintenant, oui.
Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, il fera 38 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 34, Hobart 27, Sydney 27, Canberra 27, Brisbane 29, Cairns 31, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 23 janvier. 34 morts en Nouvelle-Galles du Sud, 14 morts dans le Victoria et 10 morts au Queensland dus au coronavirus. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier dans les capitales européennes pour protester contre les passeports sanitaires et les vaccinations obligatoires. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.